Turning now to the Gospel of Luke, chapter 14 and verse 26.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à présent dans l'évangile de Luc au chapitre 14 et au verset 26. L'évangile de Luc, chapitre 14, verset 26. Ces paroles de Christ, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Et je continue la lecture avec quelques versets. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever ? De peur qu'après qu'il en aura posé les fondements et qu'il n'aura pu achever, tous ceux qui le verront ne viennent à se moquer de lui et ne disent « Cet homme a commencé de bâtir et n'a pu achever. » Ou « Quel est le roi qui, marchant pour livrer bataille à un autre roi, ne s'assoit premièrement et ne consulte s'il pourra, avec 10 000 hommes, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Autrement, pendant que celui-ci est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon disciple. » Ce passage que j'aimerais considérer ce soir commence au verset 26 avec cet avertissement. « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et sa propre vie également, il ne peut être mon disciple. » Ce sont des paroles étranges qui peuvent choquer. Bien sûr, c'est là le but de ces paroles, pour attirer notre attention sur les paroles de Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Et ceci devient bien clair et évident. Certaines personnes ont suivi Christ pour les mauvaises raisons. Ils n'ont pas compris son appel à la repentance, de se détourner du péché et à la conversion à Dieu. Ils pensaient qu'il allait leur donner de bonnes choses dans cette vie présente, des choses matérielles, des richesses matérielles, la guérison et des choses merveilleuses. Ils n'ont pas compris ou ils ne voulaient pas comprendre pour beaucoup qu'il est venu pour apporter des bénédictions spirituelles, la réconciliation avec Dieu, pour amener les gens au ciel et dans l'éternité, non pas pour que la vie matérielle soit meilleure qu'auparavant. Et il y avait beaucoup de préjugés contre Christ. Souvenez-vous que ces paroles, il les a dites dans le contexte d'une société très religieuse, la société juive de l'époque. Et les gens suivaient les traditions de leurs parents, de leur famille. Et dans leur profession, ils suivaient leur famille. Bien sûr, il y avait aussi des rébellions parfois, mais pour la plupart, ils faisaient ce qu'on leur enseignait et ce qu'ils devaient faire dans leur famille. Et la signification ici, c'est que pour venir à Christ, vous devez rompre avec la vie ancienne, les valeurs d'un incroyant, les valeurs qui se servent elles-mêmes, vivre pour soi, vous devez vous repentir du péché et permettre au Seigneur de vous transformer. Vous avez une vie nouvelle, de nouveaux objectifs, une nouvelle fidélité à Christ et vous avez un point de vue spirituel. Et parfois, pas toujours, mais parfois, vous devez alors rompre avec votre famille. La vie nouvelle doit être en premier dans votre vie s'il y a un conflit avec votre famille. Ainsi, on ne peut pas continuer comme à l'époque, simplement vivre pour les choses de ce temps, de ce monde, de la chair. Et ces gens étaient intéressés uniquement par Christ parce qu'il parlait d'une manière fascinante et qu'il guérissait les malades. Et ils le suivaient simplement de nom, à la légère, mais vous ne pouvez pas faire cela. Vous devez vous séparer de votre vie ancienne. Oh, on espère que votre mère, votre père, votre femme, vos enfants, vos frères et sœurs trouveront Christ également et seront sauvés. Et de manière naturelle, vous allez continuer à les aimer comme vos proches, mais toutes ces choses de la vie ancienne ne sont plus premières dans votre vie. C'est l'amour de Christ et l'amour pour Christ qui est la chose la plus importante dans votre vie. Parce que vous le connaissez, il vous a sauvé pour toute l'éternité, il vous a donné la rédemption, il vous a donné le ciel et la gloire et la réconciliation avec Dieu. C'est là la signification de ce verset. Ainsi, ce premier verset ici parle d'une nouvelle famille. Si quelqu'un vient à moi, sa nouvelle famille, la famille de Dieu, il y a une vie transformée ici et vous devez aller tout le long du chemin et laisser Dieu vous convertir. À présent, Christ est tout pour vous et Dieu et vous avez de nouveaux objectifs. Ainsi, Christ commence avec cet avertissement. Il n'a pas appelé les gens à venir à lui à la légère, en croyant simplement en superficie ou en étant des croyants de nom. Il voulait que les gens sachent que c'était quelque chose de profond que de croire en lui. Une vie nouvelle, complètement nouvelle, une nouvelle direction. Et le verset 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Quand vous devenez un chrétien, vous êtes différent de beaucoup de personnes dans ce monde. Vous êtes sauvé. Auparavant, vous étiez contre Dieu, un athée ou quelque chose de semblable. Et vous étiez indifférent à Dieu en l'évitant, plein de votre détermination propre, avec vos yeux fixés sur cette vie matérielle. Et parce que maintenant vous avez de nouvelles valeurs, vous avez trouvé le Seigneur, il est réel pour vous. Et vous le suivez, vous le servez. Beaucoup de gens ne vous aimeront plus et vont se tourner contre vous. Beaucoup de gens vont vous rejeter, malheureusement. Quiconque ne porte pas sa croix et se tient pour Christ et est fidèle à lui, ne peut pas être mon disciple. C'est là l'avertissement au début de ces versets. Et ensuite, il y a deux illustrations fascinantes qui nous aident également pour nos âmes. Et je vais commencer avec la première illustration qui commence au verset 28. Ces paroles de Christ à nouveau. Car qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever. Ceci est fascinant. Qui de vous, il dit, il parle à une grande foule. Si nous avons lu les versets qui précèdent ce passage, vous découvrirez que c'est là l'une des plus grandes foules qui s'est jamais assemblée, des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Ce sont des gens ordinaires. La plus grande partie d'entre eux étaient des gens pauvres. Et cependant, il les élève à un niveau qu'ils ne connaissent pas. Il dit, « Qui de vous, voulant bâtir une tour ?» Il ne voulait pas bâtir de tour. Si je peux parler en termes modernes, il serait plutôt content avec un petit appartement, un studio. Et ici, il nous dit, « Qui de vous, voulant bâtir une tour ?» Qui va bâtir une tour ? Ce terme en grec, c'est un château. Qui va bâtir un château? C'est quelque chose de grandiose, mais ceci est une image. Peut-être que ce n'est pas vrai littéralement, mais c'est une métaphore, une image ou un rêve. Les gens bâtissent leur vie. Oh, qu'est-ce que je vais bâtir dans ma vie? Peut-être je suis jeune, qu'est-ce que je vais bâtir? Oh, pas un appartement, pas une petite maison à coller, mais je vais construire un château, ma vie sera quelque chose de grand, ma vie aura beaucoup d'importance, ma vie sera quelque chose de grand, de différent des autres, d'unique. Même un château, oui, ceci, personne ne pourra y entrer. Dans ma vie future, dans mon avenir, je ne vais pas perdre ce que j'ai, je vais construire ma vie. Je la veux pour moi-même, une vie sûre, en sécurité, pour mettre en avant ce que je pense être mes capacités. Ce sont comme des rêves qui se forment à l'esprit des gens. Ainsi, Christ s'adresse à chacun d'entre nous. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'ambition? Même si c'est peut-être simplement dans votre pensée. Est-ce que vous visez haut? Vous êtes optimiste par rapport à la vie? Faites attention, dit-il. Faites bien attention. C'est là l'image. Qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense ? Oh, j'ai oublié ceci. J'ai rêvé, je pensais que je pouvais avoir une grande vie et accomplir beaucoup de choses et avoir beaucoup d'intérêt, une vie avec beaucoup de plaisir et une vie pleine de succès, un couple plein de succès, une famille. Oh, mais je ne me suis pas assis pour compter la dépense. Est-ce possible dans ce monde où il y a tant de déceptions, tant de difficultés? Est-ce que c'est facile à achever? Est-ce que je peux faire ceci sans Dieu? Est-ce que c'est là mon but? Quelque chose de grand pour moi-même? Est-ce que j'ai vraiment réfléchi à mes plans pour ma vie? De peur qu'après qu'il en aura posé les fondements. Dans cette illustration, il ne va pas très loin. Et il a simplement mis les fondements. Il a creusé la terre. Il a posé les fondements. Et à présent, il est prêt à y mettre les murs. Et à ce moment-là, c'est tôt dans cette construction. Il n'a déjà plus d'argent. Et il ne peut pas se permettre d'acheter les matériaux. Et les gens qui passent disent « Oh, ça a l'air d'être un grand château. Voyez ces fondements si énormes. Ceci sera un grand château. » Et ensuite, il se moque. « Oh, mais il n'est arrivé nulle part. Nous voyons le début du travail et tout s'est arrêté. » Les gens n'admirent plus, mais les gens se moquent de celui qui bâtit. C'est là l'illustration, de peur qu'après qu'il en aura posé les fondements et qu'il n'aura pu achever, tous ceux qui le verront ne viennent à se moquer de lui. Il avait des ambitions dans la vie, toutes sortes de choses vont aller de travers. Parfois, c'est votre carrière qui ne va pas comme vous l'imaginez. Et peut-être que vous n'êtes pas apprécié comme vous pensez que vous devriez être apprécié. Peut-être qu'on vous traite de la mauvaise manière. C'est un monde injuste. Peut-être que vous êtes coincé quelque part. Ou peut-être que ce sont les relations qui ne vont pas bien. La famille, l'époux, l'épouse. Peut-être qu'il y a beaucoup de déceptions dans la famille, beaucoup de problèmes. Ou peut-être des collègues dans votre profession, dans votre travail. Peut-être des relations. Ou peut-être que c'est de votre faute, ou peut-être pas. Peut-être que c'est quelque chose d'autre, entièrement différent, qui vous fait mal, qui vous empêche d'avancer, ou peut-être que vous êtes très malade ou affaibli par quelque chose. Ou peut-être une tragédie, un deuil, ou peut-être qu'il n'y a aucune de ces choses. Peut-être que vous avez beaucoup d'argent, vous avez un bon salaire, tout va bien, mais peut-être que quelque chose se passe à l'intérieur de votre cœur, dans votre cœur. Et soudainement, ces choses ne vous rendent plus heureux. Ceci est très courant. Et soudainement, vous réalisez qu'il y a un grand vide en vous et que ceci ne vous rendra pas heureux, ni votre femme. Que ceci ne fonctionne pas. Vous pensez que, oh oui, j'ai l'argent, j'ai cette profession, cette position, j'ai tout ce qu'il faut, mais je n'ai jamais ressenti ceci auparavant, ce vide en moi. Vous ne pouvez pas être heureux dans votre vie de manière ultime, ou satisfait ou accompli sans Dieu. Ceci est impossible. Certaines personnes essaye de vous convaincre qu'ils sont heureux, mais ce n'est pas le cas, c'est impossible. Ils prétendent simplement. Et rapidement, vous ne pouvez plus continuer à bâtir. Et voyez cette illustration au verset 30, les gens se moquent de lui et disent « Cet homme a commencé de bâtir et n'a pu achever. » C'est là une image de ce qui va se passer, parce qu'à la fin de notre vie, tôt ou tard, nous devrons rendre compte devant le Dieu vivant comment nous avons vécu. Et alors, si nous avons refusé de le chercher, son aide, son amour, d'être réconciliés avec Dieu, d'avoir son aide et la bénédiction de Christ, de le connaître et d'être dirigés par lui, par sa parole, avec toutes les richesses qu'il donne et le réconfort qu'il donne, alors soudainement, vous devrez faire face au jugement. Pourquoi avez-vous rejeté Dieu? Et à présent, vous irez dans l'éternité sans Dieu, sous sa colère, sous sa sentence de justice divine. C'est là l'illustration. Un château, votre vie, mais sans avoir le Seigneur, sans connaître le but de la vie, sans avoir la profondeur spirituelle et la communion avec Dieu. Immédiatement après, il y a une autre image, une autre illustration qui parle de guerre au verset 31. Comment le Seigneur nous aide avec ces illustrations une après l'autre? Ou quel est le roi qui, marchant pour livrer bataille à un autre roi, ne s'assied premièrement et ne consulte s'il pourra, avec 10 000 hommes, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000? Nous en revenons à cette période où il y a de grands pays et de petits pays. Et à l'époque, il y avait encore beaucoup de petites nations, très petites. Et même dans le pays d'Israël, il y avait beaucoup de villes-états à l'époque. Beaucoup de villes-états qui étaient indépendantes, qui avaient leur propre roi, leurs propres règles, systèmes, etc. Et de temps en temps, il y avait des frictions. Peut-être qu'il y a une guerre territoriale. Un des rois va essayer d'étendre son territoire pour conquérir d'autres villes-états. Et comme vous le savez, ceci se passait à l'époque. Et une dispute a commencé entre deux états, peut-être des villes-états plutôt petites. Un roi a offensé un autre roi. Et le roi a offensé, je dois élaborer un peu sur cette illustration pour que nous puissions la comprendre dans nos temps modernes. L'un des rois est offensé et immédiatement, par orgueil, il se dit « Oh non, je n'accepte pas cela. Notre royaume ne va pas accepter cela et nous allons commencer une guerre et combattre contre ce roi. » Et enflammé par son orgueil et par sa colère, il fait une erreur. Et c'est là une grande erreur qu'il fait. Il surestime sa capacité. « Oh, nous pouvons écraser ces gens. Nous allons les écraser, les détruire. Nous pouvons leur donner une leçon. Ils devront nous rendre hommage. Nous avons la puissance, nous avons les troupes, la capacité. » Il est bien sûr de cela dans son orgueil, et la guerre éclate. Il se surestime, il surestime ses capacités. C'est là la première chose. Et il ne semble pas réfléchir ou essayer de savoir quelque chose par rapport à son ennemi. Il ne connaît pas la force de son ennemi. Il pense que l'ennemi est plus faible, qu'il a moins de troupes et qu'ils ne sont pas prêts à la guerre, que facilement ils vont pouvoir leur donner une leçon. Il sous-estime ses ennemis et il connaît peu par rapport à ses ennemis. Il ne cherche pas à en savoir plus avant de prendre sa décision. Et il y a une troisième erreur qu'il fait également. Il ne considère pas les conséquences. Qu'est-ce qui va se passer si nous allons à la guerre? Même si nous gagnons, nous allons perdre beaucoup de gens. Il y aura beaucoup de frictions et si nous perdons, alors ce sera terrible parce que nous serons esclaves des autres. Il ne pense pas aux conséquences, il n'évalue pas les conséquences, c'est là l'image. Et ainsi, il va à la bataille. Dans cette illustration, les forces des deux côtés semblent se mettre en avant. Parce que l'illustration du Seigneur est celle-ci. Il ne consulte s'il pourra, avec 10 000 hommes, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui, avec 20 000. Et le temps dans le grec est clair, il dit que l'ennemi est déjà en route. L'ennemi est en route, tout est en route. Il a mobilisé ses troupes et il commence à se mettre en route. Et à ce moment-là uniquement, ce roi réalise ou il apprend qu'il a moins de troupes que l'autre, 2 fois moins. Il ne peut pas continuer ainsi. Soudainement, il découvre quelque chose par rapport à son ennemi et il réalise avec horreur que les conséquences seront terribles. La mort, et peut-être qu'ils seront soumis à l'esclavage et humiliés, lui-même sera humilié. Des choses terribles se produisaient à l'époque. Ils ôtaient les yeux de leurs ennemis, toutes sortes de choses terribles, des conséquences terribles. Et à présent, il a une autre opinion. Pendant que celui-ci est encore loin, il lui envoie une ambassade en grec. C'est les anciens, ce terme « ancien ». Les anciens de la ville sont envoyés comme une délégation pour demander la paix. Nous ne voulons pas entrer en guerre. Imposez vos termes de paix. Laissez-nous pour qu'on puisse avoir la paix, qu'on puisse à nouveau échanger dans nos affaires et avoir la paix. Et c'est une image de nous. Si nous sommes loin de Dieu, non seulement nous essayons de construire un château par nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour notre propre splendeur, notre position, en pensant que nous pouvons vivre sans Dieu, mais vu d'une autre manière, nous sommes en guerre contre Dieu. Nous disons « je ne veux pas Dieu, je ne veux pas croire en lui, je veux ma propre détermination, je veux vivre ma propre vie, prendre mes propres décisions, je ne crois pas en lui, je vais vivre contre lui et lutter contre lui toute ma vie, je vais refuser de croire en lui, je vais parler contre lui. » Comme une guerre contre quelqu'un qui est bien plus fort que vous, quelqu'un qui a beaucoup plus de troupes que vous, quelqu'un qui va vous amener à rendre compte. Et comme ce roi qui fait ces trois erreurs, vous faites les mêmes erreurs. Vous surestimez vos propres capacités, votre propre force pour vivre sans Dieu. Ceci est très triste. Et ainsi, vous ne cherchez jamais la réconciliation avec lui. Et vous ne connaissez pas son amour, jamais. Et vous ne connaissez pas son pardon, vous ne connaissez pas sa puissance qui œuvre dans votre vie pour que vous soyez une meilleure personne, une personne différente, et vous ne l'avez jamais comme étant votre enseignant, votre instructeur, vous ne connaissez pas sa force et vous ne connaissez pas son ciel, jamais, et sa gloire, jamais. Quelle chose tragique que de vivre sans lui et de surestimer nos propres capacités à vivre sans lui. Et ensuite, nous sommes ignorants par rapport à Dieu. Il est un Dieu juste et saint et il doit nous amener à rendre compte pour notre vie. Et il est très puissant. En un flash, il nous amène à la fin de notre vie. Et nous sommes hors du temps et dans l'éternité. Et il nous amène devant son trône de jugement. Mais réfléchissez à Dieu, réfléchissez aux conséquences. La paix avec Dieu, c'est extraordinaire. La paix dans la vie et dans l'éternité, les conséquences d'être un ennemi de Dieu sont terribles. Parce que comme nous l'avons rejeté lui, il va nous rejeter nous. Ainsi, l'illustration illustre notre vie parfaitement. Autrement, pendant que celui-ci est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. C'est là ce que nous devons faire. Pensez, réfléchissez à la vie, réfléchissez aux conséquences, réfléchissez à la bonté de Dieu, à la puissance de Dieu, à la justice de Dieu. Et à notre propre péché, nous sommes si inadéquats, nous avons tant besoin de lui, et implorez-le, demandez-lui sa paix. Il a publié les termes pour la paix dans la Bible, dans l'Écriture. Et il a dit, je vais vous donner la paix, je vais vous réconcilier avec moi-même et je serai votre Dieu, je vais vous diriger, je serai votre roi, votre sauveur. Mais vous devez vous repentir de votre péché et vous confier en Christ qui est venu pour payer le prix pour votre salut. Et vous devez lui donner votre vie, lui consacrer votre vie. Et alors, nous pouvons être réconciliés et nous pouvons être en paix avec lui. Et quelle paix! La guerre contre Dieu, nous sommes créés pour adorer Dieu, chers amis. Souvent on dit que les êtres humains sont des êtres qui adorent. Et c'est facile à prouver. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Nous pensons que nous pouvons être athées sans Dieu, mais nous sommes créés pour adorer. Tout le monde adore quelqu'un, quelque chose. Si vous n'adorez pas Dieu, alors vous adorez ce monde et toutes sortes d'autres choses. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a bien des années, dans les années 1970, alors que je prêchais aux États-Unis, on m'a demandé de prêcher en Floride, à Orlando. Il y avait peu de temps, mais ce pasteur de cette grande église en Floride voulait vraiment que j'aille faire un tour en bateau sur un lac. Il y a beaucoup de lacs interconnectés en Floride. Il y avait une chaîne de montagnes. Il y avait un grand lac et il y avait un bateau de touristes qui faisait le tour. Alors, j'ai accepté. Il y avait un commentaire également. Et alors que le bateau est passé par un lac, puis un autre, puis un autre, il y avait un commentaire en même temps. Mais les commentaires ne vous disaient rien par rapport aux arbres, à la flore, à l'histoire. Les commentaires étaient uniquement par rapport aux gens qui vivaient dans ces maisons splendides au bord du lac, ces villas magnifiques. Et alors, on nous a parlé de chaque personne et combien d'argent ils avaient, combien de fois ils étaient mariés, divorcés, et ce pourquoi ils étaient célèbres ou connus. Et ils ne parlaient que de ces gens qui vivaient dans ces grandes villas au bord du lac. Comme de nos jours, ce qu'on appelle l'adoration des célébrités. Et c'est là un syndrome. Et tous les gens sur ce bateau semblaient être absorbés, fascinés, et ils rigolaient, et ils s'exclamaient, et oh, combien cette personne avait d'argent! Et si vous êtes critique et que vous ne voulez pas me croire quand je dis que l'homme a été créé pour être un être qui adore, alors allez en Floride sur un bateau touristique sur un lac et vous allez comprendre que c'est tragique que d'adorer des célébrités et l'argent et des accomplissements ou la notoriété au lieu d'adorer celui que l'on doit adorer, le Dieu vivant, le Dieu éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de bonté. Quelle tragédie que de passer à côté d'une nouvelle nature, de l'œuvre de Dieu dans votre vie, de ne pas savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, de passer à côté de la connaissance de Dieu et de ne pas avoir cette communion avec lui, de passer à côté de cette grande joie, de cette paix quand on connaît Dieu, qu'on croit en lui, et de passer à côté d'un avenir éternel pour simplement adorer d'autres personnes, des choses matérielles. Rien, chers amis, rien ne peut être mieux que Dieu, que le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant, le Sauveur et Jésus-Christ. Venez, ne soyez pas comme ce roi dans cette illustration, mais apprenez et apprenez de Dieu, de sa miséricorde, de Christ à la croix du calvaire, comment il est mort pour sauver les pécheurs. Confiez-vous en lui, venez à lui et repentez-vous devant lui. Et méditez sur qui est Dieu. Vous appartenez à une nouvelle famille. Si vous connaissez Dieu, il vous aide pour construire votre vie. Et il vous amène au ciel. Il vous donne la paix avec lui. La réconciliation. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, aide-nous chacun, nous te prions. Délivre-nous de ces choses matérielles et terrestres. Délivre-nous de ces choses insensées. Délivre-nous, Seigneur, en particulier, parce que nous sommes en guerre contre toi, que nous puissions voir Christ, son salut, et bénir chaque âme qui a besoin de toi. Nous te le demandons dans le nom de notre bien-aimé Sauveur, pour sa gloire. Amen.